Bonsoir à tous. Merci d'être présents donc pour cette conférence donc autour d'un livre donc qui vient de paraître sur les questions économiques. Un livre donc d'Alexis Karklins-Marché qui est donc à mes côtés, qui est un professionnel des questions économiques puisqu'il travaille pour un cabinet de conseil financier. En particulier, je crois, sans trop me risquer, pouvoir dire qu'il est spécialiste des questions notamment d'évaluation financière et donc globalement aussi d'accompagnement des entreprises. Donc c'est un praticien aussi. D'abord, c'est quelqu'un qui est au contact du concret parce que là, on est sur une œuvre qui concerne les pensées économiques. Mais encore, ces pensées doivent-elles désigner des réalités donc de ce point de vue, on va être servi avec quelqu'un donc qui connaît très bien les milieux économiques et les milieux de l'entreprise, mais en même temps quelqu'un qui a aussi une activité et une réflexivité sur ses pratiques, puisqu'il est également chargé de cours, notamment auprès d'écoles de commerce. Je laisserai présenter davantage s'il le souhaite, mais donc c'est quelqu'un qui à la fois a une réflexivité sur ses pratiques, ce qui donne effectivement cette histoire très personnelle aussi de la pensée économique, mais également une dimension de transmission. Parce qu'encore, là encore une fois, c'est un aspect très important, je pense, et un marqueur de ce livre, que de vouloir faire œuvre de transmission, dans la mesure où c'est un livre, donc déjà le titre en lui-même est évocateur, puisqu'il s'agit d'une histoire impertinente de la pensée économique, ce qui veut dire impertinence parce que d'abord c'est une histoire qui se veut très pédagogique en fait, très didactique dans son approche. Il suffit, alors attendez, j'ai regardé, il y a la table des matières, c'est assez intéressant quand même. Il y a c'est Bastiat, star mondial du libéralisme par exemple, vous voyez, on a Marx, Karl plutôt que Groucho. Schumpeter, c'est le dandy viennois. On voyait qu'à travers finalement les titres, déjà, on se rend bien compte que c'est une histoire qui se veut et qui est de fait très, très accessible, c'est-à-dire qu'il s'agit bien, et c'est ça l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire de mettre à disposition des citoyens, des non-initiés, la pensée économique qui peut paraître, il est vrai, assez éloignée, assez difficilement accessible, assez ésotérique en fin de compte. Très souvent, quand on écoute l'économie, alors déjà, il y a un vocabulaire spécifique. Alors surtout dans le monde du business, vraiment, c'est-à-dire dans l'accompagnement des entreprises en plus. Alors là, vous êtes particulièrement servi. Mais donc, c'est un vocabulaire qui peut justement paraître très ésotérique, qui peut paraître mettre à distance les personnes et donc l'effort de vulgarisation, avec toute la noblesse qu'a ce mot de vulgarisation, puisque c'est la question du peuple derrière et comment on se branche à un moment donné sur les personnes ordinaires dans tout ce qu'elles ont de complexe par ailleurs, mais qui en tout cas ne sont pas forcément initiées à ce vocabulaire, à cette sémantique, à ces théories économiques. Donc ça, c'est un effort de vulgarisation et qui me semble assez louable par les temps qui courent, puisque les questions économiques sont au cœur évidemment du fonctionnement de nos sociétés. On a on a subi une crise économique d'ampleur, inégalée depuis les années 30, donc ces dernières années, qu'on subit également encore, on le voit bien au niveau en particulier européen, avec toute la problématique notamment des pays du Sud, que ce soit la Grèce, l'Espagne et un certain nombre d'autres pays, et même la France, bien sûr, avec tous les débats. C'est très pesant sur les débats actuels. Il suffit de voir tout ce qu'il y a autour de la dette publique en particulier. Donc finalement, cette contribution est aussi une contribution, au-delà de cette transmission, de cet aspect pédagogique, c'est aussi une contribution citoyenne, de mon point de vue, dans le sens où cela donne des clés, et c'est une des revendications de ce livre, des clés pour comprendre le monde, finalement, dans lequel on évolue, avec également un parti pris, mais je laisserai développer là-dessus, c'est celui aussi, alors là, pour le coup, c'est de mettre à distance non pas les gens, mais les maths. Ça, c'est un aspect important. Il y a d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, dans l'introduction, Vous mettez une équation de l'équilibre général de Léon Valras. On voit des choses totalement incompréhensibles, indéchiffrables. Bon, donc ça, il dit, c'est fini. À partir de maintenant, on n'en parle plus. Donc ça, c'est un parti pris, effectivement, justement, pour essayer de sortir de cet ésotérisme et d'arriver à qualifier, parce qu'en réalité, d'ailleurs, c'est une des spécificités des économistes. En réalité, très souvent, ils cherchent à mathématiser le monde. On se demande parfois, effectivement, s'il n'y a pas volonté, justement, derrière, de ne pas être compris, même quelquefois, pour dissimuler peut-être certains partis pris et certains préjugés idéologiques qui peuvent sous-tendre leur discours. Voilà. Donc, je dirais, finalement, à travers cette contribution, une histoire très personnelle, une histoire de la pensée, donc, en réflexivité, et une histoire vraiment très personnelle, avec des partis pris sur les auteurs choisis, avec des partis pris sur les angles d'approche et les manières d'aborder ces différents auteurs. Et donc, peut-être, effectivement, sera-t-il intéressant dans votre présentation que vous commenciez par en expliquer plus précisément. Moi, c'est ce que j'ai pu en percevoir, et ce qui est indiqué également un petit peu en introduction, mais peut-être expliquer la genèse de ce livre, les ressorts qui ont motivé son écriture, et parce que quand même, quand on travaille et quand vous avez un emploi, vous n'êtes pas donc universitaire, vous avez un parce que bon, loin de moi l'idée que de prétendre que les universitaires n'ont rien à faire, mais enfin ils sont payés à écrire et à produire, à faire de la recherche et éventuellement à vulgariser, même s'ils ne livrent pas forcément toujours, mais en tout cas vous avez un emploi à côté, donc ça veut dire que vous avez pris le temps d'écrire. Vous avez pris sur votre temps libre, donc ça suppose un engagement particulier aussi. Et donc peut-être expliquer aussi ce qui fonde finalement la motivation d'écrire cet ouvrage. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus la parole, et pour que vous nous présentiez donc avec impertinence, j'espère, le contenu de cet ouvrage.
D'abord, un grand merci, parce que c'est une présentation qui est extrêmement claire. Je crois que j'ai eu quelques articles dans la presse, et ça fait partie du jeu, et quand on parle de son livre, de dire est-ce qu'on va se reconnaître dans le livre tel qu'il est présenté. Merci beaucoup, parce que ce que vous avez dit correspond effectivement à beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que j'ai en tête et que j'ai eu en tête en écrivant ce livre. Bonsoir, je suis très très heureux d'être là. Il y a quelques semaines, j'écoutais Denis Mola à la radio en train d'expliquer justement toute la stratégie de la librairie Mola, comment on existe dans le monde de la numérisation des ouvrages, à l'époque des réseaux sociaux, comment on fait pour continuer d'exister en tant que librairie. Et je me disais en l'écoutant, voilà exactement le type de librairie où j'aimerais pouvoir me rendre et faire la rencontre de lecteurs et potentiellement des dédicaces. Et donc, un mois plus tard, Mola m'a proposé de venir. Donc, imaginez, j'ai déjà réalisé un premier rêve en étant là ce soir à Bordeaux, qui est une ville que j'aime profondément. Alors, pour revenir sur la genèse du livre, quand on se lance dans la rédaction d'un ouvrage, j'avais écrit il y a 14 ans déjà, 13 ans, un petit ouvrage d'économique, mais très universitaire. Et j'avais envie d'écrire, déjà, il y avait cette envie de réécrire à nouveau, de parler d'économie, mais de le faire moins sous l'angle universitaire, justement, moins académique, et peut-être plus tourné, vous l'avez rappelé, tourné vers un public plus large. Et donc, au départ, il y a la conviction, une conviction très forte, que l'économie est partout. Il suffit d'allumer sa radio, d'aller sur les réseaux sociaux, d'acheter un journal ou de regarder la télévision, et on ne parle que d'économie à longueur de journée. Et je peux comprendre, à la fois à cause des jargons que l'on entend, à la fois à cause de parfois certains experts qui vous expliquent, enfin qui vous expliqueront demain pourquoi ce qu'ils ont prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. On peut comprendre que c'est pas simple de suivre l'actualité économique. Et j'ai vraiment une conviction. Il se trouve que j'ai le plaisir de faire pas mal d'émissions de radio, et notamment sur BFM, et je vois le retour qu'on peut avoir sur des émissions de radio quand on fait œuvre de pédagogie. Alors, j'ai absolument pas la prétention de penser que je suis plus pédagogue qu'un autre, mais en tout cas, en essayant d'expliquer l'économie avec des mots simples, parce que ça doit pouvoir être compris par tous, dans la mesure où, encore une fois, ça sature notre information et notre société. Quand on fait cet effort-là, on doit être logiquement récompensé de retour de personnes qui vous disent « Écoutez, merci, vous m'avez aidé à comprendre. » Voilà. Alors, évidemment, cette conviction-là, elle peut s'exprimer de différentes façons, et moi, j'ai souhaité le faire à travers un livre. Un livre de passion. Je suis moi-même économiste de formation, alors c'est vrai que je ne suis pas resté dans le monde de la recherche. Je me suis orienté vers la pratique et j'accompagne beaucoup d'entreprises depuis une vingtaine d'années. Et je trouve, Je continue de lire beaucoup d'économie parce que ça me donne, je pense en tout cas, dans la façon de regarder une entreprise et dans la façon de comprendre les marchés de toutes les, dans tous les secteurs dans lesquels je peux intervenir, ça me donne une certaine façon de voir, une certaine façon d'observer. Et je considère que d'avoir la capacité à continuer de comprendre l'économie et de bien suivre ce qui se passe et de pouvoir le mettre en relation, en parallèle avec ce que l'on vit au quotidien dans les différents métiers, bien, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Donc je suis effectivement un passionné d'économie et je suis un passionné d'histoire économique. Alors, vous savez, il y a une grande phrase, on disait quel est le premier mot que prononce un étudiant qui a fait de l'histoire de la pensée économique quand il trouve son premier travail ? En général, c'est pour demander quel type de hamburger il peut servir. Sous-entendu, ce ne sont pas des métiers qui servent à grand-chose. S'intéresser à l'histoire de la pensée économique, a priori, ce n'est pas forcément très passionnant. Alors, évidemment, moi, je suis complètement contre cette idée-là. Et au contraire, je pense que c'est en comprenant tous ces économistes dont on nous parle beaucoup, vous voyez, le libéralisme, l'ultralibéralisme, c'est un mot qui n'existe qu'en français. Vous avez peut-être entendu parler de keynésien, de relance par la demande, d'augmentation du SMIC. Donc, il y a tous ces phénomènes. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou au contraire les baisser ? On parle de politique d'austérité ou au contraire de politique de relance. Parfois, on a encore des propos, quand on voit sur la loi sur le travail en ce moment, les incroyables débats que l'on peut entendre. On perçoit à quel point l'économie, justement, est là et dans nos vies, elle occupe nos vies. Et de pouvoir donner des clés de lecture à travers l'histoire de la pensée économique me semblait être, finalement, être en tout cas utile. J'avais cette vocation, j'avais cette envie de partager ce que moi je comprends. Et vous l'avez rappelé, merci de l'avoir rappelé, c'est une histoire personnelle. Encore une fois, je ne prétends absolument pas à l'exhaustivité, je ne prétends surtout pas à la neutralité. Je pense qu'il était extrêmement difficile d'être neutre en économie. C'est une science, sans doute, mais pas une science comme les sciences physiques ou les sciences mathématiques. Il y a différentes définitions de la science, comme vous le savez. Une science, ça n'est pas forcément l'exactitude. Si on comprenait toute l'économie dans le caractère exact, on n'aurait pas 10% de chômage en France et 25% de chômage chez les jeunes. Donc on voit bien que c'est difficile de mettre ça sous l'angle de la science parfaite, la science pure, mais ça reste un domaine de connaissance qui s'enrichit. Et avec ce que l'on vit, avec les différentes phases de crise, de reprise que l'on vit maintenant depuis deux siècles, parce que vraiment l'économie a pris son envol en réalité il y a 250 ans à peu près, on accumule de la matière, on accumule de la connaissance. Et en fonction de ses sensibilités, chaque économiste se nourrit d'un certain nombre d'auteurs, d'un certain nombre d'enseignements. Et c'est cet effort-là que j'ai voulu faire dans l'ouvrage. Voilà. Donc vraiment un mélange de passion et de conviction. Alors, vous l'avez rappelé également, et merci de le souligner, le caractère impertinent de l'histoire. Alors, je vous le dis, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément encore lu l'ouvrage, ça reste quand même très académique. Très académique au sens où je ne cherche pas à absolument m'évader des textes. Au contraire, j'essaye de coller le plus possible aux textes qui ont été écrits depuis la Grèce antique. Mais j'ai pris un certain nombre de latitudes. Et je les reconnais dès le début de l'ouvrage, pour éviter qu'on puisse me taxer d'hypocrisie. D'abord, en essayant de donner des titres qui donnent un peu plus envie que parfois certains titres qui peuvent paraître ésotériques. Encore une fois, le public, ce n'est pas un public d'universitaire, ce n'est pas un public d'académique, c'est pour toucher le plus grand public, vraiment le public le plus large. Et au-delà des titres, c'est aussi d'avoir choisi de ne pas utiliser d'équations. Alors, c'est de plus en plus difficile de parler d'économie sans équations. Vous prenez aujourd'hui des ouvrages d'économie, il y a l'équation partout. Et donc, je pensais qu'il faut déjà avoir une connaissance mathématique approfondie pour pouvoir lire un ouvrage d'économie aujourd'hui. Et je voulais m'extraire de ça. Donc, il n'y a pas de graphique et il n'y a pas d'équation. C'est un texte écrit quasiment du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'était déjà une forme d'impertinence dans le choix. Il y a un autre élément qui est très important pour moi. C'est, je présente en une quinzaine de chapitres et cinq intermèdes, je présente les économistes les plus importants, les plus influents, mais en insistant sur la biographie, la vie de ces auteurs. Pour moi, il est impossible de comprendre les écrits, la philosophie, la pensée des plus grands auteurs en matière de pensée économique et de science économique si l'on ne comprend pas la vie de ces personnes. Je vais vous donner des exemples très concrets. Vous connaissez, je pense, Keynes, John Maynard Keynes, donc grand économiste qui a publié en 1936 La théorie générale, qui est sans doute un des livres d'économie les plus connus, qui est très difficile à lire, très très difficile à lire. C'est assez ennuyeux, à vrai dire, mais c'est très puissant. Donc il y a un grand effort à faire pour rentrer dans ce type de livre. Et Keynes a vraiment révolutionné la pensée économique. C'est le premier à avoir vraiment formalisé en détail un système économique où il dit les marchés, les marchés tels qu'ils existent ne peuvent pas tout réguler. L'économie ne peut pas se réguler de façon totalement autonome. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas une main invisible, comme chez le fondateur, un des fondateurs du libéralisme, qui est Adam Smith. Il n'y a pas de main invisible. Et l'État doit pouvoir intervenir en période de crise pour relancer l'économie. Bon. Derrière ce propos, il y a aussi toute une philosophie. Et en l'occurrence, Keynes, qui est né dans l'Angleterre victorienne, a été élevé dans une famille. Alors, c'est un étudiant extrêmement brillant. Le produit de l'élite britannique, il a fait les plus grandes universités britanniques, il a fait Eton et puis ensuite Cambridge, et d'ailleurs il a passé toute sa vie d'universitaire à Cambridge. Mais à côté de ce côté très sélectif, très élitiste britannique, c'était aussi un penseur qui était profondément hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il pensait différemment et prenait même presque un malin plaisir à sortir des canons traditionnels de la pensée victorienne. Donc typiquement, il s'est marié avec une danseuse russe, il a consacré une grande partie de sa fortune, parce qu'il a fait une très, très belle fortune avec des placements boursiers réussis, il a consacré une grande partie de sa fortune aux arts, à l'opéra, à la danse, parce qu'il était passionné d'art. Et donc un rapport aux autres choses de la vie que uniquement l'argent, qui explique en grande partie la façon dont il a travaillé. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc j'ai consacré, je vais dire dans chaque chapitre, toute la première partie, de chaque chapitre à décrire les grands éléments qui, selon moi, pour tous les auteurs, qui expliquent la vie de ces auteurs et puis qui expliquent le pourquoi de leurs écrits. Au-delà de la genèse, alors c'est difficile de résumer 3000 ans d'histoire en quelques minutes et je vous donnerai quelques éclairages sur ce que moi je retiens. Plusieurs messages clés. Le premier message, c'est qu'en 3000 ans d'histoire, on a eu évidemment une évolution très impressionnante de la matière économique. Je vous le disais, la matière économique est vraiment née, on va dire, au XVIIIe siècle. Parce qu'avant, on trouve des bribes de pensée économique, on trouve des éléments qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, qui sont en relation avec des sujets d'économie, mais pas de pensée complète. Je vais vous donner un exemple. Mon premier chapitre sur la Grèce, que j'ai appelé les Grecs à la cité plutôt qu'à la city. Pourquoi j'ai appelé à la cité plutôt qu'à la city ? Parce que les Grecs ont une vraie pensée politique, et on connaît Platon, Aristote, et les premières traces de réflexion économique que l'on trouve remonte même encore avant. On est au temps d'Homère, donc au temps de l'Iliade et l'Odyssée, et on a un poète qui s'appelle Hésiode qui écrit un traité agricole. Donc il explique comment il faut faire les moissons, comment on peut faire du labourage et de l'élevage. Et puis de temps en temps, il a des réflexions sur le travail. Mais au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'abord la politique. Et ensuite, tous les grands écrivains grecs qui vont parler d'économie seront toujours tournés sous l'angle de la philosophie et de la politique. Platon invente une certaine forme de communisme, mais pas du tout au sens où on le connaît aujourd'hui, au sens de Marx, et pas du tout sur cet angle-là, une forme de communisme assez élitiste, où il imaginerait que la cité, pour être bien gouvernée, puisse choisir les plus capables, les plus intelligents, les plus sages, et que ces personnes-là refuseraient tout rapport avec l'argent, et tout rapport avec tout ce qui pourrait corrompre leurs idées. Et donc, il a une vision très, très négative de l'argent. Donc, inutile de vous dire qu'un auteur comme ça ne pouvait pas penser vraiment à l'économie. Il a pensé beaucoup de choses extraordinaires, mais pas sur l'économie. Aristote est un peu plus ouvert. Alors, j'ai utilisé volontairement des anachronismes, mais j'ai expliqué ça en disant que finalement, Aristote avait été d'accord avec l'économie de marché, mais il était contre le capitalisme. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec l'argent. C'est normal que quand on achète son pain, on utilise de l'argent pour acheter sa baguette. Mais en revanche, il est contre le principe de l'accumulation. Donc, il est contre le principe de l'accumulation de richesses parce que là encore, il croit que ça va corrompre la pensée. Et donc, on perdrait le sens du juste et le sens de ce qui est équitable. Voilà. Et donc, les Grecs passent à côté du sujet économique, même si le mot économique, oikos nomos, est en fait les lois de la maison, c'est plus exactement une façon de bien gérer son domaine. Le mot est né dans la Grèce antique, mais pas du tout dans le sens où on le connaît aujourd'hui. On fait un saut dans le temps, l'époque médiévale. Alors, traditionnellement, la vision de l'époque médiévale est assez simpliste, puisqu'on pense que l'Église était contre tout, et contre l'intérêt financier, contre le taux d'intérêt, contre l'argent. Et en fait, c'est plus complexe que ça, parce que dans l'Église médiévale a vu émerger un certain nombre de penseurs, notamment un évêque français qui s'appelle Orem, qui a été un des premiers, alors c'est Charles V, hein, donc on est en 1350, pour vous donner un repère chronologique. Orem est le premier à formuler une réflexion sur la monnaie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'inflation ? Qu'est-ce qui fait qu'on doit que le prince, le roi doit faire attention à ne pas manipuler les monnaies. Voilà. Et il y a quelques penseurs comme ça dans l'époque médiévale, et notamment en Espagne, une école qui est peu connue, des théologiens, qui s'appelle les théologiens de Salamanque. Les théologiens de Salamanque, en environ une centaine d'années, vont poser plusieurs bases très importantes de la réflexion sur l'économie, sur la valeur, sur les prix, sur les échanges. Ce sont les premiers, ce sont souvent des prêtres, ou en tout cas des théologiens, et ce sont des hommes qui vont venir dire que finalement faire du profit, ce n'est pas un mal, que, au fond, gagner de l'argent, ça n'est pas un problème, que l'intérêt financier est justifié, parce que quand vous prêtez de l'argent, bah, vous prenez des risques de ne pas être remboursé, et puis vous vous privez d'un argent, vous ne pouvez rien en faire pendant que vous le prêtez, et donc ces éléments-là doivent être rémunérés. Donc il y a encore une fois une forme de première réflexion de nature économique. On arrive à la Renaissance et au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, grand siècle français. On connaît tous Colbert. D'ailleurs, c'est intéressant, on parle encore de Colbert. Il y avait un ministre de l'Industrie il y a encore quelques années qui disait « Moi, je suis favorable au colbertisme participatif ». Bon, il a démissionné depuis, enfin, il a été viré. Mais peu importe, il parlait du colbertisme participatif. Donc on voit qu'il y a des noms comme ça qui restent, mais Colbert n'a aucune pensée économique. Il n'écrit rien d'économie. Donc ce n'est pas un penseur, il n'a pas fait de traité d'économie. C'est un praticien. Et c'est un praticien qui fait comme ce que tous les autres ont fait, sauf que lui, il le fait avec encore plus de moyens et de façon encore plus disciplinée. Donc c'est le contrôleur général des finances de Louis XIV. La France est à l'époque, XVIIe siècle, la première puissance européenne. Il se trouve que Colbert est quelqu'un qui est très grand travailleur, très organisé, mais il applique les connaissances économiques de l'époque qui sont encore très limitées. Voilà. Et il s'inspire, ce qu'on a oublié de dire, vous savez, il s'inspire d'un autre contrôleur du commerce qui, lui, travaillait avec, qui était contrôleur de Henri IV, quelques années avant. Alors, ce n'est pas Sully, on connaît tous Sully, le labourage. Ben, on enlève Sully, et on pense à un autre qu'on connaît beaucoup moins, qui s'appelle Barthélemy de La Féma. Et La Féma avait été le premier, vous voyez, il a fait le canal de Briard, il a fait les soieries, c'est lui qui a introduit l'industrie de la soie en France. Donc, très interventionniste. Et l'idée, à la Renaissance et au XVIIe siècle, d'un La Féma ou d'un Colbert, c'est que le roi doit avoir le plus d'argent possible. Et pour avoir le plus d'argent possible, donc le plus de monnaie possible, il faut que le royaume exporte le plus possible et importe le moins possible. Donc exporter beaucoup, importer très peu. Et donc pour ça, il faut développer l'industrie. Et donc très interventionniste. Mais on n'a pas encore de pensée économique très détaillée. Arrive le XVIIIe siècle, et là, beaucoup de choses se passent. Là, on rentre dans la révolution économique. Je parlerai de la révolution politique tout à l'heure, mais la révolution économique, en fait, c'est à la fin du règne de Louis XIV, donc on est au début du XVIIIe siècle. Et une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce ne sont pas les Anglais ou les Anglo-Saxons qui ont inventé le libéralisme, ce sont les Français. Voilà. Ce sont des auteurs qui aujourd'hui sont très peu connus. Je vais vous donner quelques noms, et je suis quasiment convaincu que vous ne les avez jamais entendus. Je vous dis par exemple Pierre de Bois-Guilbert, je vous dis Véron de Forbonnet, je vous dis Vincent de Gournay, je vous dis Cantillon. Voilà, quatre noms, quatre penseurs qui ont été les premiers au siècle des Lumières, souvent d'ailleurs, certains d'entre eux ont contribué à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ont écrit les premières pensées très structurées autour de la liberté économique. Je vous rappelle, le royaume de France, à la fin de Louis XIV et sous Louis XV, est exsangue. C'est un royaume en faillite. Et donc, on voit bien que l'interventionnisme, à ce moment-là, ne marche plus. Et donc, certains auteurs se disent, comment on fait pour relancer l'économie du royaume? Comment on fait pour retrouver un équilibre financier? Il y a un homme politique qui va s'inspirer de leurs écrits, qui s'appelle Turgot. Et donc Turgot a été le contrôleur des finances de Louis XVI. Louis XVI arrive sur le trône en 1774 et Turgot devient son contrôleur des finances pendant 2 ans. Et il arrive avec des idées révolutionnaires. Les nobles doivent payer des impôts. Le clergé aussi. Il faut une égalité, tout le monde doit payer de l'impôt. Et les paysans ne peuvent pas être les seuls à payer de l'impôt. Il faut de la liberté économique. Et il faut encourager la création. Alors, on ne parle pas encore d'entreprise, on parle de manufacture, mais il faut laisser les gens le faire tout seul. Inutile de vous dire. Alors, en plus, il contrôle les dépenses du roi, notamment de Marie-Antoinette. Ça ne plaît pas du tout. Au bout de 2 ans, il est viré. Voilà. Et 13 ans plus tard, il y aura la Révolution, puisque tous les contrôleurs qui y viendront, eux, seront beaucoup plus classiques et ne suivront pas du tout ses préconisations. À partir de là, la France et la pensée française va être moins connu parce que le libéralisme va vraiment prendre son envol au 19e siècle, à la fin du 18e siècle et au 19e siècle en Angleterre. C'est l'Angleterre qui va prendre le relais. Et vous savez, ça c'est une conviction que j'ai aussi très, très forte, c'est qu'en réalité, quand on écrit de l'économie, quand il y a eu des vraies avancées économiques, c'est souvent parce que ça correspondait à un moment charnière dans l'histoire d'une nation. Et un exemple, Adam Smith, qui est considéré comme le premier écrivain, pour moi à tort, du libéralisme économique, donc qui est d'origine écossaise, qui écrit donc en anglais, écrit son premier livre, enfin le grand, pas son premier livre, mais son grand livre d'économie qui s'appelle La richesse des nations. Il écrit en 1776. Et là, il va vraiment lancer la science économique. C'est lui qui la lance parce qu'il est suivi, il est repris par tous les auteurs qui vont venir après. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque entre guillemets l'année zéro, c'est-à-dire que le moment en 1776 où Adam Smith publie son ouvrage, tous les économistes qui viendront derrière se serviront de son ouvrage et se positionneront par rapport à son ouvrage. Et c'est un économiste libéral qui va beaucoup s'inspirer de ce que les Français avaient écrit dans les années d'avant, sans d'ailleurs toujours y faire référence. Voilà. Mais c'est vraiment lui qui lance cette pensée-là. Et on est en 1776, c'est le moment où l'Angleterre commence sa révolution industrielle. Et j'allais vous dire, je pense que l'économie ne serait pas forcément en langue anglaise comme on le connaît aujourd'hui, parce que ça reste aujourd'hui majoritairement une matière en langue anglaise, si il n'y avait pas eu la révolution industrielle, à un moment où une série de grands économistes, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, quelques grands économistes qui viennent, Thomas Malthus aussi, vous savez, celui qui disait qu'un jour la planète souffrirait d'une surpopulation et qu'on risquait d'avoir plus d'hommes et de femmes sur Terre que de capacité à les nourrir. Tous ces économistes arrivent entre la fin du 18e et 1850. Et là, lance toute l'économie. On a les premiers enseignements d'économie à l'université et tout ça est en langue anglaise. Bien sûr, il y a quelques Français qui continuent. Jean-Baptiste C, on a cité Bastiat. On avance, 19e siècle, milieu du 19e siècle. La révolution industrielle a aussi entraîné une paupérisation très importante avec des populations ouvrières qui vivent dans des conditions misérables. Plusieurs pensées socialistes se développent. Et il y en a bien sûr une qui va s'imposer, c'est la pensée marxiste. Voilà. Sachant que Marx lui-même n'est pas un économiste à proprement parler. En tout cas, c'est mon opinion. C'est un homme d'une très grande culture qui mélange à la fois l'économie, mais aussi la philosophie, l'histoire, un certain nombre un très très grand lecteur. Et lui va penser un système à part entière. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'école marxiste d'économie. Marx continue d'avoir une très grande influence. On le voit dans les débats politiques, notamment en France. On le voit dans le milieu universitaire. Mais en matière économique, il y a très très peu aujourd'hui d'économistes. Il y en a quelques-uns qui se recommandent, qui disent qu'ils ont été influencés par Marx. Mais on ne peut pas à proprement parler d'école marxiste, alors qu'il y a des écoles libérales et il y a des écoles keynésiennes. Et j'y reviendrai. On avance, on se retrouve à la fin du 19e siècle. Plusieurs écrivains, plusieurs économistes, au même moment, développent les mathématiques. On est sur la fin du 19e siècle. C'est à ce moment-là, et de façon presque concomitante, sans se connaître, un Français qui s'appelle Walras, mais qui est parti vivre en Suisse, un Autrichien qui s'appelle Menger et un Anglais qui s'appelle Jevons, les trois en même temps, développent, sans se connaître encore une fois, ce qui était assez intéressant comme perspective, développent pour la première fois l'économie très mathématisée. C'est là où on voit arriver toutes les formules et les graphiques. C'est à partir de ce moment-là que l'économie mathématique telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'elle est largement pratiquée va prendre son envol. 20e siècle, on arrive en 1929, grande crise économique, la plus grande crise du 20e siècle, avec toutes les conséquences dramatiques que l'on connaît. Pour imaginer, il y a 25% de chômage aux États-Unis, 30% de chômage en Allemagne. Ça a évidemment contribué à la montée au pouvoir d'Hitler. Donc, il y a un certain nombre de conséquences dramatiques. Et naturellement, 1929 a été un moment charnière, encore une fois, comme je parlais tout à l'heure de la révolution industrielle. 1929, la crise économique, va entraîner toute une série de nouvelles réflexions économiques. Et là, un auteur, je l'ai évoqué tout à l'heure, va s'imposer, c'est John Maynard Keynes. Britannique, qui avait déjà écrit un livre très connu en 1919, parce qu'il participait, juste après la Première Guerre mondiale, il participait aux négociations du fameux traité de Versailles. Le traité de Versailles qui a conduit à punir l'Allemagne. Et lui a démissionné, il était dans la délégation britannique, il a démissionné parce qu'il considérait que les négociations partaient dans tous les sens et que surtout on allait punir l'Allemagne et qu'un jour, il écrit des lignes absolument prophétiques, il écrit « Un jour l'Allemagne aura envie de se venger ». Et on est en 1919. Donc il avait déjà atteint une certaine notoriété. Et Keynes est un économiste, un mathématicien, un spécialiste des probabilités, mais il s'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, à beaucoup d'autres sujets. Il écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'économie, très accessibles, beaucoup de textes, peu d'équations, plutôt bien écrits en général. Et puis, en 1930, il sort un premier grand livre, Traité de la monnaie. Ça ne marche pas, ça ne prend pas. Peu de gens le lisent, mais trouvent ça trop long, trop complexes et ne comprennent pas le sens du propos de Keynes. Donc Keynes se remet au travail et entre 1934 et 1936, il va écrire le grand ouvrage de sa vie qui s'appelle donc la théorie générale, pour le simplifier parce que le titre est beaucoup plus long, la théorie générale dans lequel il va proposer une nouvelle analyse de l'économie. Pour lui, le libéralisme tel qu'on le connaît, le laisser-faire a échoué. Une crise économique peut se produire, c'est possible, et là, on en a l'exemple, et il explique comment une crise économique peut causer autant de chômage. Et dans sa vision, et là j'ai aussi fait œuvre, je crois en tout cas, j'ai essayé de faire de l'impertinence, parce que je crois que tout ce qu'on dit sur Keynes n'est pas toujours très juste, enfin, je remarque qu'il y a beaucoup de simplicité, de facilité sur Keynes. Keynes a une vision très entreprise, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde de l'entreprise, et il se met dans la tête d'un entrepreneur. L'entrepreneur commence à douter, commence à avoir peur, commence à être dans la défiance. Il perd confiance, et qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter de recruter, il va arrêter d'investir. En faisant ça, évidemment, à son petit niveau, il prend une décision qui paraît tout à fait juste et rationnelle. Sauf que si tous les entrepreneurs font la même chose, si tous s'arrêtent d'investir au même moment, si tous entrent dans la défiance, si tous commencent à licencier, eh bien, alors, ça provoque une crise économique. Et donc, Keynes change la perspective. Beaucoup d'économistes se mettaient au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Lui se met au niveau macro en essayant de regarder ce qui se passe au niveau général. Et c'est là où il explique que la crise de 1929 a été au départ provoquée par une spéculation boursière. Et à partir du moment où la bourse a explosé en 1929, un climat de défiance générale s'est instauré partout dans le monde. Tous les entrepreneurs ont commencé à douter et ont commencé à licencier, provoquant en fait un cercle vicieux et entraînant du chômage, le chômage lui-même entraînant encore plus de chômage et des prix qui s'effondrent. Voilà. Et donc c'était je le présente de façon évidemment simple et il y a beaucoup plus de richesse et de complexité chez Keynes, mais en présentant cela, il va vraiment changer complètement, il apporte un nouveau système d'analyse économique, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a des économistes, beaucoup d'économistes, se revendiquent keynésiens. Keynésiens parce que justement Keynes, dans son ouvrage, explique que l'État peut et doit intervenir pour casser ce cercle vicieux. L'État peut avoir, sous forme d'investissement public, à un moment ou à un autre, une capacité à couper ce cercle vicieux de la déflation, du chômage et du désinvestissement. Alors attention, il dit du coup, ça peut conduire à des déficits budgétaires. Donc lui abandonne l'orthodoxie. Il dit, ça suffit de faire des budgets absolument équilibrés, ça ne sert à rien en période de crise. Au contraire, il faut ne pas hésiter à faire du déficit budgétaire pour relancer l'économie. Alors ce qu'on a un peu oublié en 2016, et en fait on l'a oublié depuis 40 ans, puisque je vous rappelle que cette année, ça va être la 41e année que le budget français est en déficit, Keynes n'a jamais dit que c'était très bien de faire 40 ans de déficit budgétaire. Voilà. Donc là, on est dans une situation très particulière. On n'est pas le seul à faire ça. Il y a d'autres pays qui sont aussi en situation difficile, mais il n'y a aucune théorie économique qui vous dit que c'est bien de faire 40 ans de déficit budgétaire consécutif. Voilà. Et donc Keynes n'a jamais dit ça. Et donc Keynes, je précise pour terminer sur Keynes, Keynes au contraire, lui, était dans une logique de oui, il faut faire une relance par la demande quand c'est nécessaire en période de crise, mais il faut le faire pendant une certaine période et pas de façon permanente. Voilà. Et au contraire, dès que la croissance revient, il faut être capable de restaurer l'équilibre budgétaire d'une nation. Voilà. Donc, et ça, cette deuxième partie-là de la recommandation keynésienne, on l'a complètement perdue et on ne l'entend plus du tout. J'avance. On se met dans l'après-guerre, très forte croissance, influence keynésienne maximale. Dans les années 60, Time Magazine met en couverture une photo de Keynes en disant Keynes est mort juste après la guerre, mais sa postérité a été majeure puisque juste après la guerre, tous les gouvernements se revendiquent keynésiens et on voit donc le Time Magazine avec une grande photo dans les années 60 de Keynes en disant ben voilà, l'homme qui vraiment a changé le monde moderne. Et donc on s'est dit, pendant ces fameux 30 glorieuses, qu'on avait trouvé enfin un système économique, une façon d'agir qui permettait de résoudre les problèmes de chômage et qui entraînait une croissance soutenue pour toujours. Problème, à nouveau, 1973, premier choc pétrolier, 1979, deuxième choc pétrolier, et on voit arriver dans les années 70 et 80 quelque chose qui n'était absolument pas prévu par les modèles keynésiens, du chômage et de l'inflation à deux chiffres. Et dans le système keynésien, ça n'était pas possible. Ou en tout cas, tel qu'on comprenait le système keynésien, tel qu'il était interprété, ça n'était pas possible. On ne pouvait pas avoir à la fois de l'inflation et à la fois du chômage. Et pourtant, on le constatait, c'était bien là, avec des inflations qui étaient très, très, très importantes. Et donc, on est arrivé à la conclusion, en tout cas certains économistes ont dit, bah, donc ça prouve que Keynes n'avait pas tout prévu. Et donc il y a eu toute une révolution, une contre-révolution libérale, qui a pris corps à la fois aux États-Unis et de façon plus marginale en Europe, notamment en Autriche. Des grands écrivains autrichiens qui, en général, d'ailleurs, ont quitté, comme ils avaient été ennuyés par les nazis avant la guerre, en général, ont quitté, sont aussi installés aux États-Unis. Donc c'est vraiment une contre-révolution qui est venue des États-Unis, du monde universitaire, avec des conséquences politiques très directes. Ronald Reagan en 80, Margaret Thatcher quelques années avant en Grande-Bretagne, se sont inspirés de cette contre-révolution libérale. C'est-à-dire que toutes les politiques qui ont été menées aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans un très grand nombre de pays depuis, des pays qui avaient des difficultés à résoudre leurs problèmes économiques, finalement, cette contre-révolution libérale est venue nourrir ces politiques économiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ça continue. Ce qui est extraordinaire, c'est la profusion de pensées économiques aujourd'hui qui existent. C'est très difficile de résumer. J'ai consacré le dernier chapitre à, j'appelais ça, nouvelle tendance. Mais en me disant, mais je dois faire un choix, parce qu'il y a tellement de tendances, il y a tellement de sujets aujourd'hui qui sont analysés en matière économique que c'est très difficile de concentrer l'analyse. Mais si je devais résumer, je vous dirais, il y a un pan très important d'économistes qui continuent d'analyser la pensée libérale. Donc on a toujours une école libérale forte. On a aussi une école keynésienne forte, très active, avec quelques penseurs, notamment quelques prix Nobel importants. Il y a l'économie de la régulation qui se développe très très fortement. La régulation, c'est quelles sont les mesures qui doivent être prises au niveau d'une économie pour que l'économie soit plus efficace, notamment. Et on a un économiste de la régulation qui est très connu, puisqu'il est français, c'est Jean Tirole, qui est présenté de façon absolument scandaleuse par certains comme un économiste libéral. Ce n'est pas un économiste libéral. On peut aimer la liberté sans être un libéral. Et donc, c'est un économiste au contraire de la régulation. Et donc, Jean Tirole, prix Nobel de l'année dernière, 2014 déjà, prix Nobel 2014, fait partie de cette école-là. C'est sans doute un des penseurs les plus influents dans le monde aujourd'hui en termes de régulation. Vous avez aussi une école très importante qui concerne, on appelle l'économie du développement. Et dans l'économie du développement, il y a aussi pas mal de Français. Donc là, l'idée est de, ce sont des économistes qui travaillent de façon très concrète. Comment on fait pour améliorer le bien-être dans un village africain ? Comment on fait pour améliorer l'accès à l'eau dans un village en Asie ? Et parmi ces économistes, il y a une économiste française, franco-américaine maintenant, parce qu'elle vit aux États-Unis, elle s'est installée à Boston, elle s'appelle Esther Duflo. Et Esther Duflo, notamment, fait partie du comité des experts en économie de la Maison-Blanche. Elle a été choisie par Barack Obama pour faire partie d'une commission qui conseille le gouvernement américain sur les politiques de développement. L'économie financière s'est beaucoup développée. Et surtout, et je terminerai là-dessus, l'économie comportementale. L'économie comportementale, j'allais dire, c'est peut-être le sujet le plus intéressant. En tout cas, c'est un des sujets les plus intéressants en économie. C'est comment comprendre la réaction des individus, des êtres humains, de vous, de moi, par rapport à une information économique que l'on apprend, par rapport à une conjoncture économique. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. On disait tout à l'heure science ou pas science. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer un satellite sur Mars et on sait exactement dans 274 jours où se trouvera Mars. En revanche, on ne sait toujours pas bien s'il y a une crise boursière, quelles vont être les réactions qui vont être provoquées dans l'économie. Ou quand vous faites une annonce d'une hausse d'impôts, vous n'êtes pas sûr de savoir exactement ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que justement, le comportement des êtres humains est sans doute ce qui est le plus difficile à mettre en équation. Et on voit la limite de l'économie. Quand on disait tout à l'heure, c'est une science d'une certaine façon, mais pas complètement. Pourquoi ? Mais simplement parce qu'on ne peut pas mettre en équation tout, et notamment ce facteur qui est majeur, et que justement Keynes, parmi d'autres, nous a légué, qui est que l'économie, c'est d'abord une science de la psychologie des individus, de vous, de moi, comment nous réagissons par rapport à une information que nous recevons, est-ce que nous avons confiance dans le gouvernement qui est en poste, est-ce que nous avons confiance dans l'environnement économique de son quartier, est-ce que nous avons confiance, on parle beaucoup de confiance, moi je parle énormément de confiance, notamment dans les médias, j'évoque beaucoup cela parce qu'on peut avoir toutes les théories du monde, à la fin ça reste bien un sujet de psychologie. Et vous voyez, j'ai conclu, alors je ne vous révèle pas, ce n'est pas un roman policier, donc je peux vous parler de la conclusion, je ne vais pas révéler des grandes surprises. Dans la conclusion, j'insiste beaucoup sur ce que moi j'aimerais voir en termes d'évolution de la pensée économique. Et parmi ces éléments-là, toujours mettre l'humain au cœur de la réflexion. C'est-à-dire que c'est très bien de faire de la recherche pour la recherche et mettre plein d'équations partout et d'être le plus intelligent du monde, mais si ça ne sert à rien, je n'en vois pas vraiment l'utilité. Donc pour moi, il faut toujours avoir l'objectif de se dire « je fais de la recherche en économie, à quoi ça sert ?» et en quoi cela peut contribuer à améliorer la vie des gens. Voilà, parce que c'est quand même un des éléments importants. Je crois qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. On vit dans la République des experts. Il y a beaucoup trop d'experts qui viennent un peu partout dans les médias. Et parfois, j'ai l'impression d'en faire malheureusement partie. Il faut beaucoup plus d'humilité. Il y a un très grand économiste de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelle Paul Samuelson, qui est un Américain qui a écrit l'ouvrage. Tous ceux qui ont fait des études d'économie connaissent Samuelson parce que c'est vraiment l'ouvrage qu'on vous donne année 1, année 2, année 3 à l'université quand vous faites des études d'économie. Et Samuelson raconte une histoire pour montrer à quel point il faut être très très humble quand on est économiste. Il dit, voilà, vous mettez, imaginons une situation théorique, vous mettez sur une île déserte un physicien, un chimiste et un économiste. Ils n'ont rien à manger, ils ont juste des noix de coco. Et donc, ils débattent comment on fait pour ouvrir les noix de coco et survivre. Alors, le physicien dit, c'est très simple, on va mettre la noix de coco... ils ont une boîte de conserve, excusez-moi. Ils ont une boîte de conserve et ils n'ont pas d'ouvre-boîte. Et donc, il y a juste des noix de coco. Comment on fait pour ouvrir la boîte de conserve? Et donc, le physicien dit, moi, je vais mettre la boîte de conserve sous le cocotier et avec la noix de coco, quand elle tombera, elle va tomber sur la boîte, ça l'ouvrira. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir manger. Le chimiste dit, non, moi, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais mettre la boîte de conserve dans l'eau de mer. Avec la rouille, ça va rouiller le fer, et comme ça, on pourra ouvrir la boîte et on pourra manger. Et l'économiste lui dit, écoutez, c'est très simple, je fais une première hypothèse, j'ai un ouvre-boîte. Voilà. Et donc, ça ressemble beaucoup à l'économie d'aujourd'hui. Souvent, on raisonne dans un contexte très théorique, et donc c'est pour ça que je vous disais, j'insiste beaucoup sur, en tout cas, j'aimerais que l'économie soit le plus partagée possible, le plus compréhensible par tous, et ne pas être uniquement réservée à un cercle d'experts. Ça reste une matière complexe, Et la recherche est absolument indispensable. Ça reste aussi une matière qui est subjective. Il faut l'accepter. L'économie n'est pas objective. Il y a des éléments qu'on connaît. Il y a des facteurs que l'on sait aujourd'hui expliquer. Mais on ne pourra jamais tout prévoir parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, justement, la psychologie est là et que la psychologie à prévoir, c'est sans doute la chose la plus difficile.
Merci beaucoup pour cette présentation qui est très riche. Et merci et bravo d'avoir relevé le défi, parce qu'effectivement, 3000 ans d'histoire en à peu près 40 minutes, c'est quand même, un vrai défi, et que vous avez parfaitement relevé, tout en ne perdant pas à chaque fois, et moi c'est ce que je relèverai, le sens finalement des contextes historiques. Systématiquement, vous avez replacé ces pensées économiques dans leur contexte, parce que évidemment c'est le fait de personnes, d'hommes, souvent d'hommes d'ailleurs, j'allais dire d'hommes et de femmes, mais c'est vrai qu'à l'époque le statut de la femme n'était peut-être pas celui qu'il est aujourd'hui et qu'il est appelé à devenir demain encore plus. Donc déjà voilà, souligner cet aspect-là sur la psychologie, effectivement, simplement une parenthèse, Keynes était très, très inspiré par Freud notamment, effectivement, et ça c'est une des dimensions essentielles, et là votre conclusion, je crois, de dire que l'économie doit être au service de l'humain, ça devrait aller de soi, mais effectivement, ça ne s'impose pas toujours. Et surtout quand on a un raisonnement, ce que vous avez dénoncé, très abstrait finalement, en vase clos. Et là est toute la richesse de votre contribution et de cet ouvrage. Il y a un auteur finalement que vous n'avez pas mentionné, mais c'est Karl Polanyi par exemple, qui parle du double mouvement qui peut y avoir dans une société, c'est-à-dire un mouvement de poussée vers l'autorégulation du marché, de libéralisation en fait, pour aller vite, et un mouvement inverse finalement et contradictoire, antagoniste, qui est un mouvement d'autoprotection de la société. Donc pour aller dans votre sens, sur la question justement du fait que en France, on a plutôt une culture de sciences humaines et sociales, de philosophie, de sociologie, effectivement, et autres, et moins peut-être d'économie, si on devait le traduire, ce rapport de force. Et c'est finalement ce qui transparaît un peu moins et qui est un peu en creux dans votre analyse, puisque vous parlez beaucoup de la psychologie, mais finalement, la socio et la question des rapports de force et des rapports sociaux n'apparaît pas. Alors, et donc peut-être pouvez-vous
rebondir là-dessus. Très bien, très bonne question. Il y a un auteur dont je ne vous ai pas parlé, et sans doute parce que c'est mon auteur préféré, donc c'est tellement évident que je ne vous en ai même pas parlé, c'est mon économiste qui me paraît être le plus pertinent, qui s'appelle Joseph Schumpeter. Il y a régulièrement des articles qui ressortent sur Schumpeter. À côté de Keynes, on parle beaucoup de Schumpeter. Alors, pour le faire très simple, et parce qu'il parle de sociologie, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Schumpeter, c'est un auteur qui est né en Autriche, à la fin du 19e siècle. En fait, il est né la même année que Keynes, et c'est l'année de la mort de Marx. Donc c'est 1883, vous avez la même année, mort de Marx, naissance de Keynes, naissance de Schumpeter. Schumpeter donc, enseigne d'abord en Autriche, et puis, pour des raisons de... Enfin, il connaît plusieurs drames personnels, s'installe en Allemagne, et puis finit par quitter l'Allemagne et s'installe aux États-Unis. Schumpeter a écrit plusieurs, enfin pour moi deux grands ouvrages, qui sont parmi les plus grands ouvrages de toute l'économie. Le premier, il écrit en 1912, il est encore très, très jeune, et il écrit un ouvrage absolument lumineux qui s'appelle la théorie de l'innovation. Schumpeter explique que le monde dans lequel on vit, le capitalisme, est porté par l'innovation. Et que cette innovation, c'est à la fois les nouvelles inventions, les nouveaux produits, mais aussi les nouvelles formes d'organisation, les nouveaux marchés, les nouveaux débouchés, que les innovations renouvellent en permanence l'économie dans laquelle on vit. Et il parle d'un phénomène qu'il décrit comme la destruction créatrice. Alors la destruction créatrice, c'est quoi ? C'est que vous avez des secteurs qui disparaissent et d'autres qui se substituent. Regardez la photo, un exemple très récent, la photo analogique a complètement disparu. Une entreprise comme Kodak n'existe plus aujourd'hui. Elle a été remplacée d'abord dans un premier temps par une technologie numérique. Et depuis peu maintenant, ce sont nos appareils de téléphone qui servent à faire des photos. Voilà. Et je pense que tous ceux qui utilisent des appareils de téléphone font beaucoup de photos avec. Voilà. Donc typiquement, on voit bien un secteur, l'analogique, a totalement disparu. Alors évidemment, à l'époque de Schumpeter, quand il écrit son livre, il ne parle pas encore de ce type de technologie, mais lui a vu l'arrivée du chemin de fer. Et le chemin de fer a complètement fait disparaître le secteur des calèches, des carrosses et autres systèmes de poste à cheval. Et donc, il prévoit que l'économie sera de plus en plus innovante, qu'il y aura de plus en plus d'innovation, et qu'au fond, le capitalisme sera en permanence en mouvement. Et je crois que sa description est juste. Je crois que ça, c'est une analyse économique qui est pertinente. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, a fortiori en 2016, enfin, il suffit de se reporter il y a 5 ans, il y a 10 ans, enfin, j'ai eu mon premier téléphone portable, ça n'avait même pas 20 ans. Donc c'est la vitesse à laquelle l'innovation arrive et survient chamboule tout. Et ça va continuer, ça va même s'accélérer. Regardez tout ce que l'on fait comme commerce à travers maintenant Internet. D'ailleurs, j'ai facilité tout à l'heure la librairie Mola, qui est à la fois une librairie et qui est en même temps une librairie physique et qui en même temps a développé une présence sur les réseaux sociaux et un site de e-commerce extrêmement efficace. On voit bien que pour continuer à exister, il faut s'adapter. Et donc la théorie de l'innovation est une réalité. 30 ans plus tard, Schumpeter écrit un deuxième livre qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Et Schumpeter se nourrissait beaucoup de sociologie. Ça n'est pas juste un économiste avec des formules partout, des formules mathématiques. Et dans son livre, il écrit quelque chose qui me paraît peut-être très fort, trop fort, mais encore une fois qui me paraît très stimulant. Schumpeter décrit le capitalisme comme à la fois un système économique et une civilisation, c'est-à-dire une forme de société. Un système économique fondé sur la propriété privée, sur la concurrence, sur la liberté des échanges. Et ce mode d'organisation, lui dit, contrairement à Marx, il est hyper efficace et il ne tombera pas, il ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas d'antagonisme. La destruction créatrice fonctionne. Et il y a les secteurs qui disparaissent, mais d'autres arrivent et créent encore plus d'emplois. Et donc, chez Schumpeter, il y a cette idée d'une organisation économique qui est très efficace. Et donc, le capitalisme ne peut pas tomber en tant qu'organisation, en tant que système économique. Mais en revanche, il dit, en tant que système de société, donc comme civilisation, là, il y a un grand risque. Pourquoi ? Parce qu'il dit, et là, il est en échange avec Polanyi sur ce sujet-là, il dit, au fond, il y avait d'ailleurs un excellent article la semaine dernière dans Les Échos sur pourquoi Nuit debout, Schumpeter l'avait prévu. Pourquoi le mouvement Nuit debout, Schumpeter l'avait prévu. Il écrit, que le capitalisme est tellement efficace que ça enrichit les sociétés, que les peuples qui adoptent le capitalisme s'enrichissent. On a encore eu l'exemple en Chine dans les 40 dernières années. On l'a vécu pendant les 30 glorieuses, etc., etc. Les peuples s'enrichissent avec le capitalisme. Il y a une classe moyenne qui émerge et en moyenne, les peuples s'enrichissent. Le problème, c'est que souvent, c'est une bonne chose, mais que le capitalisme conduit aussi à la démocratie. Pas toujours, on le voit en Chine aujourd'hui, mais pousse vers la démocratie. Or, Schumpeter se méfie de la démocratie pour une raison très simple. Il pense que comme les gens, comme le peuple, les citoyens, auront pris goût au niveau de vie, eh bien, ils auront beaucoup de mal à accepter les changements permanents que le capitalisme et que l'innovation entraînent. Et que petit à petit, ils vont voter pour des gens qui vont leur promettre toujours plus, qui vont surtout leur promettre de maintenir le système tel qu'il existe. Et donc de ne rien changer, enfin de maintenir, je vais utiliser un mot moderne qui ne s'applique pas chez Schumpeter, mais les acquis sociaux. Voilà. Et donc, il prévoit qu'il y aura des forces de résistance dans la société à l'innovation, et que plus un pays sera riche, et que plus un pays sera démocratique, plus il sera difficile de maintenir l'esprit entrepreneurial, parce que, et ça se comprend parfaitement, les citoyens auront peur des changements que le capitalisme induit, et notamment à cause de l'innovation. Et donc je crois que, à côté de Polanyi, et dont son ouvrage La Grande Transformation, qui est un ouvrage absolument prodigieux, et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, ça me donne l'occasion de faire un deuxième livre, si mon éditeur est d'accord. Il y a encore beaucoup d'économistes que je n'ai pas cités, mais il y en a. Donc voilà. Chez Schumpeter, il y a déjà cette idée du monde dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à un point dans notre développement qui fait qu'on a du mal à accepter toutes les innovations qui vont arriver, la robotisation, le digital, qui occupe de plus en plus nos vies. On trouve ça très bien en tant que consommateur, mais c'est parfois, ça a des conséquences économiques qu'on ne serait pas prêt à accepter, et il va y avoir des forces de résistance. Et donc, il y a justement, je vous dis, il y a un très très bon article la semaine dernière que j'ai évoqué, de quelqu'un qui connaît bien les lois sur le travail, le droit du travail, et qui écrit justement, Nuit debout, c'est une incarnation de ces mouvements de résistance au changement que Schumpeter avait prédit dès les années 40, et qui, à mon avis, trouve aujourd'hui toute leur vérité. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment. Merci.